bonjour à tous. Alors, en entendant il y a quelques instants Marc, et puis les diverses prières que les frères et sœurs ont adressées à notre Seigneur, je me suis dit finalement, presque tous les sujets que je voulais partager avec vous ce matin ont été abordés. Et bon, est-ce que c'est encore la peine que je parle? Mais quand même, il y a quelques détails que je voudrais approfondir de la part de notre Seigneur. Aujourd'hui, il est impressionnant, même saisissant, de voir qu'avec toutes les informations et toutes les inventions informatiques de communication qui nous entourent, on a l'impression qu'il est de plus en plus difficile de garder notre intimité. Tout ce matériel que nous avons à notre disposition, qui nous permet de communiquer en quelques secondes au bout du monde, de pouvoir se voir, de pouvoir même partager sa vie avec ses proches et ses amis sur ces fameux réseaux sociaux qui existent aujourd'hui et qui nous entourent, doivent néanmoins être utilisés avec sagesse pour ne pas le voir se retourner contre nous. Sans parler de ce petit objet avec des touches ou tactiles que nous avons au fond de notre poche ou dans notre sac et qui nous géolocalise au quotidien. J'ai été surpris il y a quelques années alors que, avec mon épouse, nous partions en vacances en voiture, puis nous avons franchi la frontière, et puis le téléphone a sonné dans le sac de mon épouse, et tiens, qui c'est qui nous appelle? Une charmante voix nous a dit, vous avez quitté la France, bienvenue. Oh là là, suivi. Oui, c'est impressionnant. Eh oui. Mais tout cela ne reste que matériel et passager. Ne doit pas nous faire psychoter, comme les jeunes diraient aujourd'hui dans le langage courant, et ne pas nous faire oublier un autre fait ô combien plus important pour nos vies. Savoir qu'une personne n'a pas besoin de tout ce matériel pour savoir qui je suis, pour savoir où je suis, d'où je viens et où je vais. Cette personne est mon Créateur. Et c'est ce que David a voulu partager par un psaume avec une élévation et une puissance de langage, on va voir, saisissante. Alors je vous invite à prendre vos Bibles et à lire le psaume 139, que l'on connaît tous, plus ou moins. Psaume 139. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David, par ce psaume, nous décrit les qualités de Dieu. On peut rester avec un langage de surface pour présenter des qualités. Dieu est grand, point à la ligne. Ma femme est belle, point à la ligne. Je le sais, mais pour les personnes. Mais là, c'est avec des mots profonds, un langage inspiré, que le psalmiste décrit Dieu pour que l'on puisse s'émerveiller. Saisir sa grandeur afin que nos cœurs soient dans l'admiration, l'adoration, mais également encouragés, fortifiés, interrogés. Ce psaume nous parle de critères immuables de la personne de Dieu. Dieu ne change pas. Quoi que nous vivions. Vous savez, nos vies, elles sont un peu comme les actions en bourse. C'est fluctuant, ça monte. Ça descend, c'est irrégulier. Il y a des jours où ça va bien, il y a des jours où ça ne va pas bien. Et parfois, on configure Dieu à ce qu'on vit. Dieu ne change pas. Les critères que nous allons aborder à travers ce psaume sont immuables. Que j'aille bien, que j'aille moins bien. Que je vive quelque chose de facile, de plus difficile. Ce psaume est très beau. Et puis son déroulement, je pense que vous avez remarqué, il est très régulier. Il est formé de 24 versets qu'on peut diviser en 4 strophes de 6 versets. 4 fois 6, 24. 4 thèmes, 4 remarques. Versets 1 à 6, Dieu est omniscient. Autrement dit, il sait. Et dans son omniscience, ce qu'il y a de formidable, c'est que Dieu se présente comme un Dieu d'intimité et qui veut cette dimension de rapport. Je, tu. Déjà, le psaume 33, les versets 13 et 15 nous dit « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. » Proverbe 15, verset 3, « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, regardant les méchants et les bons. » 1 Chronique 28, verset 9, « L'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toutes les imaginations des pensées. » Mais là, David va plus loin. « Un Dieu qui est près de moi et qui veut cette proximité, comme il l'a voulu avec Abraham, Joseph, Moïse, David, Ésaïe, et comme Jésus l'a voulu avec ses disciples, Jean, André, Simon, Pierre, Thomas, également Nicodème, un pharisien, et une femme, la femme samaritaine, à qui il n'aurait jamais dû parler, et bien d'autres. Je ne suis pas pour Dieu un anonyme, un cas, un numéro, un dossier qui est important que lorsque je suis concerné. On peut penser à des dossiers professionnels, à des dossiers médicaux. Et puis dès que je ne suis plus concerné, on me met dans un rayon avec plein d'autres. Peut-être même archivé au bout d'un certain temps. Pour Dieu, je ne suis pas un dossier. Je ne suis pas un anonyme. Je ne suis pas un cas. Mais une personne qu'il connaît personnellement et regarde en particulier. Comme un père qui, malgré le nombre de ses enfants, connaît et regarde chacun attentivement. Ce n'est pas toujours facile. À cette différence près que Dieu sait tout de moi et de façon hautement personnelle. Il regarde l'intérieur du cœur, ce cœur dont Jérémie dit qu'il est si tortueux que même parfois nous ne comprenons même pas ce que nous avons pu faire. Dieu voit, Dieu perçoit. Il sait alors ce que je dis, ce que je fais et pense, tout ce qui se passe en moi, dans toute mon activité, quand je me lève, quand je m'assois, mais également dans mon quotidien, dans tout ce que je peux faire. Il n'y a pas de recoin, de pièces cachées devant lui. Vous savez, des fois dans les maisons, on a un peu des pièces, c'est un peu le fourre-tout, puis on évite de les faire visiter ou de les montrer. Non, Dieu voit tout. Il y a même parfois des pièces dans mon cœur dont je n'ai pas trop envie de parler. Mais Dieu le sait, Dieu le voit. Dieu a une connaissance de tout ce qui est possible. Même les si que nous ne pouvons pas vivre, lui, il sait ce qui serait passé. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Même les cheveux de notre tête sont comptés. Alors pour le Seigneur, c'est peut-être plus facile pour certains. Quel soulagement, quel repos phénoménal de savoir que Dieu sait qui je suis et qu'il sait tout. C'est en bonté qu'il a une connaissance parfaite de nous. Non pas comme ces instruments qui savent partout où on est, mais on ne sait pas un jour ce qui peut se passer. Dieu, c'est en parfaite bonté. Oui, il est parlé de père, il a été parlé de fils. C'est en parfaite bonté. Il s'intéresse à nous, veille sur chacun de nous. Sa grandeur et sa puissance sont pour nous une haute sécurité. Je peux ainsi venir voir Dieu dans toutes les situations qui sont les miennes, dans l'intimité de sa présence. Je n'ai pas honte, je n'ai pas peur. Je peux venir librement vers lui grâce à Jésus, sans me cacher, parce que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, verset 13. Pas besoin de façade devant Dieu, ni de me dissimuler, ni de me créer un personnage. Il sait tout, il voit tout. Mais c'est rassurant pour moi. Il y a des choses peut-être qu'au quotidien je ne comprends pas. Il y a des choses peut-être qui au quotidien me révoltent. Il y a des choses peut-être au quotidien qui me fatiguent, qui m'énervent. Je peux tout lui confier. Il le sait. Ce n'est pas la peine de paraître, de dire, vous savez, toujours, ça va, oh oui, oui, ça va. Merci Seigneur, ça va toujours. Il y a des fois où ça ne va pas. Et nous devons le dire. Le Seigneur le sait. Il nous répondra. Peut-être pas de la manière dont nous aurons souhaité, mais il le fera. Et nous pouvons dire ce matin, comme David au verset 6, « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Et puis, versets 7 à 12, Dieu est omniprésent. Dieu est toujours près de moi, parce que Dieu est présent partout. On ne sait pas si le psalmiste se met ici à la place d'une personne qui chercherait à fuir Dieu et à partir loin de lui, mais la réponse est claire. Il n'y a nul endroit où il ne se trouve. On ne peut le fuir, on ne peut aller nulle part. On ne fait fuir l'Esprit de Dieu ou le regard de Dieu. Partout où je vais, il est là et il est toujours avec moi. On ne peut s'éloigner de lui par le ciel, ni s'éloigner par la mort. On ne peut s'éloigner de lui ni par l'est, ni par l'ouest. On ne peut réussir à se cacher de lui la nuit. On ne peut réussir à se cacher de lui le jour. Cette notion d'omniprésence est parfois difficile à comprendre, à saisir. Il n'y a pas une partie de Dieu au ciel et une autre partie sur terre. Non, Dieu est pleinement présent partout. C'est l'intégralité de son être qui est partout présente. Dieu est esprit, il est au-delà de l'espace qu'il a créé. Salomon, lors de la dédicace du temple, s'exclame « Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie ?» 1 roi, 8, verset 27. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu est partout sans agir de la même manière. En ce moment même, il peut pleinement corriger son enfant, le soutenir, le bénir, l'encourager, et tout ceci en des endroits différents de la planète. Les astronautes chrétiens qui ont eu le privilège de s'éloigner de la Terre ont rapporté combien ils avaient été émerveillés par le spectacle de la création. J'y reviendrai plus tard. Et autant par la présence discernable de leur Sauveur et Seigneur. Vous avez déjà lu ou entendu le témoignage de James Irwin qui a eu la révélation de Jésus sur la Lune. Il y était. Et qui a pu dire « Il est plus important que Jésus ait marché sur Terre » que des hommes aient marché sur la lune. Je prends le bus, Jésus est avec moi. Je pars en vacances aux extrémités de la terre, je prends l'avion, je prends le bateau, le Seigneur est avec moi. Je suis au travail, le Seigneur est avec moi. Pas toujours évident à saisir, parfois. Le Seigneur est avec moi. Je passe par la vallée de l'ombre de la mort. Le Seigneur est avec moi. Ce matin, le Seigneur nous a réunis dans ce lieu où il nous a précédés. Le Seigneur est au milieu de nous, en nous. Il y a des frères et des sœurs qui n'ont pu se joindre à nous. Le Seigneur est avec eux. Il est avec elles. Mais il y a également une réflexion sur la manière et notre décision à le suivre. Et là, nous connaissons tous l'histoire de cet homme, Jonas, à qui Dieu demande d'aller au nord-est dans une ville appelée Ninive, et qui part dans le sens opposé, croyant que Dieu lui lâcherait les baskets. Enfin, à l'époque, c'était peut-être des sandales. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Jonas? Il a pris ses lunettes de soleil, il a pris ses tongs, il a pris son maillot de bain, et il est parti à l'opposé, bien tranquille, au fond d'un bateau. Et il dormait. Ouais. Mais Dieu l'a suivi. Et il l'a ramené à travers une tempête et un gros poisson. Ce gros poisson à qui Dieu a même pu dire « Maintenant, vomis cet homme sur une plage. » Dieu l'a suivi. Alors, c'est un encouragement dans mes peurs. Jésus nous dit « Je suis avec vous tous les jours. » Un jour, c'est 24 heures. Jusqu'à la fin du monde. Je ne suis jamais abandonné, même lorsque j'ai l'impression que tout dérape ou se dérobe sous mes pieds. Je ne suis jamais abandonné. Il n'est pas de table d'opération où je dois aller, où Dieu soit absent. Il n'est pas de situation que Dieu trouverait trop profonde, trop dangereuse. Oh là, j'y vais pas. Ça a l'air... Non. Il est pour mon bien à jamais soucieux de m'accompagner. David avait réalisé cela. Et puis les versets 13 à 18, Dieu est souverain. Dieu est souverain. La troisième qualité dont David s'émerveille, c'est que Dieu est souverain sur sa vie, du début jusqu'à la fin. En décembre 68, les trois astronautes de la mission Apollo 8, c'était une mission qui était en charge de préparer les autres futurs où l'homme sera amené à marcher sur la Lune, contournaient la face cachée de la Lune pour se diriger vers le retour sur Terre. Et soudain, voilà ce qu'ils ont vu. Par-dessus l'horizon se leva le disque bleu et blanc de la Terre, éclairé par la lumière du soleil, le tout sur fond de ténèbres vides de l'espace. Personnellement, je n'ai jamais vu ça, je n'y étais pas. Ces hommes savants, éduqués, dans les domaines scientifiques, technologiques, lorsqu'ils assistèrent à ce spectacle, ne prononcèrent pas le mot d'Einstein, ou n'eurent pas de citation poétique, mais eurent ces mots que des milliers de personnes aux États-Unis, et notamment les ingénieurs de la NASA, ont pu entendre au commencement, Dieu. Ils n'ont pu dire que ça. Face à ce spectacle qu'ils voyaient et qui avait la signature du Dieu créateur. Mais ces hommes avaient-ils saisi également que ce Dieu créateur des cieux et des cieux des cieux était aussi leur créateur, mon créateur, le mien. Avec délicatesse, me dit la parole, il m'a créé. J'ai été formé, caché, pétri. Mieux, j'ai été tissé dans un lieu secret, synonyme du sein maternel. Dieu s'est occupé de moi. Je ne suis pas une créature issue du hasard. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1, verset 5. Non seulement Dieu est maître du début de mon histoire, mais encore de la fin de mon histoire. Je ne mourrai pas un jour plus tôt ou plus tard que ce que Dieu connaît. Jésus dit d'ailleurs de ne pas s'inquiéter, car ce n'est pas cela qui rallongera notre existence. Qu'est-ce que cela amène sur nos lèvres? La reconnaissance. David a pu dire, c'est toi qui m'as formé. Heureuse de l'œuvre puissante de Dieu. Face à cette œuvre, je dois respecter et prendre soin de mon corps. J'ai été créé à l'image de Dieu, et Dieu m'a créé avec une touchante attention. Il m'a fait à son image, Je le reflète et il a sa main sur moi. Et plus de cela, ce corps avec ma conversion est devenu le temple du Saint-Esprit. Je peux me réjouir de ce projet bienveillant de Dieu si mes parents ne m'ont pas vraiment voulu. Si la société ne m'a pas vraiment voulu, comme on dit. Si je suis un accident, comme on l'entend parfois. Né sous X, abandonné. Si. Dieu, lui, m'a voulu. Dieu, lui, m'a voulu. Quel réconfort de penser que Dieu a désiré ma naissance, qu'il est le premier responsable de ma venue au monde et qu'il m'a créé parce qu'il m'aimait. Quel réconfort. Je suis un homme, une femme que Dieu a voulu. Je suis tout sauf un accident, un enfant du hasard. Une créature merveilleuse qui fait l'objet du désir de Dieu. Quand c'est la dernière fois que devant une glace, vous savez le matin qu'on est un peu englué, on a pu avoir cette phrase, « Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » C'est quand la dernière fois? Oui, et pourtant, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Nous pouvons le dire comme David. Combien d'enfants qui grandissent, puis ensuite des adolescents, avec ces pensées, parce qu'entendus, et portent des valises, même adultes, ô combien lourdes pendant des années. Tu as été un accident. Et qui ont un comportement et une souffrance synonymes de ce qu'ils ont entendu. On s'identifie à ce qu'on nous dit. Oui, Dieu m'a voulu. Je suis tout sauf un accident, un enfant du hasard. Et plus encore, il fait de moi une destinée, car il a un plan et une intention pour ma vie, personnellement. Il désire nous rendre heureux et utiles, même au milieu des difficultés. Il a des projets pour nous, pour chacun d'entre vous ce matin. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Aussi, je peux me réfugier en lui, en son amour pour moi, à sa compréhension de ce que je suis. Et c'est avec un esprit de louange qu'au verset 17 et 18, David s'émerveille de la grandeur de Dieu, mais aussi de sa fidélité. Et puis les 6 derniers versets nous rappellent que Dieu est juste. 19, 24. À partir du verset 19 et jusqu'au verset 22, le ton du psaume change. On passe d'un langage paisible, profond, poétique, encourageant, à celui où il est parlé de jugement, avec des hommes de sang, méchants, remplis de haine et de désobéissance. C'est vrai que si on avait pu, on aurait eu presque envie de supprimer ces versets et que le psaume s'arrête au verset 18. Mais voilà, Dieu est indivisible. Et si Dieu est pleinement omniscient, s'il est pleinement omniprésent, s'il est pleinement souverain, il est également pleinement juste et trois fois saint. Ça, parfois, c'est plus dur. Oui. Nous devons comprendre à travers ce que David écrit, le rôle que David lui-même avait. Il était roi. Il avait été nommé par Dieu. Et chaque fois qu'il y avait une désobéissance ou qu'il y avait une opprobre sur David, c'est comme si c'était sur Dieu que cela était commis. Toute atteinte à David était une atteinte à Dieu lui-même. Quiconque s'opposait à David s'opposait à Dieu. Et cela blessait David. Verset 20-21. Les ennemis de Dieu deviennent également les ennemis de David. Mais c'est à Dieu que David crie pour qu'il intervienne, pour que sa justice se fasse et que pour tous ceux qui versent le sang innocent, qui blasphèment, qui prennent faussement le nom de Dieu, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, soient confrontés au juste juge. David a de la haine et du dégoût pour eux, mais il a de la sagesse, et c'est à Dieu qu'il demande d'intervenir dans tout cela. Alors pour nous aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, nous pouvons être les témoins proches d'injustices, parfois impuissants, où l'on serait tenté de rendre coup sur coup. Ça nous démange des fois. Oui. On a tous dû faire face un jour, et peut-être même en ce moment même, à des harcèlements venant de personnes difficiles. Un collègue, un patron, un voisin, un membre de sa famille, quiconque. Un jour ou l'autre, on a été confronté à cette impossibilité de se faire justice ou de résoudre ces solutions difficiles. Tellement de choses affreuses se passent autour de nous. On a encore entendu dans une prière tout à l'heure ce qui peut se passer à des coins de la planète. Qui peuvent à nous aussi apporter la haine et le dégoût et un profond sentiment d'injustice. Et même parfois la justice des hommes et des nations semble bien molle à réagir et donne l'impression de privilégier les intérêts de chacun au détriment des vies humaines. Mais Dieu n'est pas absent de tout ce que nous vivons et de tout ce qui se passe sur terre. Il connaît la mesure, il la chiffre, et un jour, il en sera juge. Un jour, le sang innocent versé depuis Caïn trouvera sa rétribution, parce que la rétribution appartient au Seigneur. Dieu tient ses comptes, et tôt ou tard, ils seront réglés. Pour ce qui me touche de plus près, Dieu nous invite à pardonner et non juger. Et c'est parce qu'un jour un jugement aura lieu que nous pouvons avec confiance pardonner ceux et celles qui nous ont offensés. Cela ne nous regarde plus. Pardonner, c'est laisser le soin à Dieu de juger, mais également apprendre à lui laisser le jugement. Dieu voit tout ce qui se passe. Dieu sait tout. Quelle assurance et quelle paix de lui laisser le soin de tout cela. Et puis, pour finir, au verset 23-24, qui se détache un peu de ces versets précédents, David termine par ces mots qui sont comme une requête, « Sonde-moi ». Sonde-moi, oui, parce que même si l'indignation était dans la bouche de David, il ne cherche pas, comme certains, à vouloir masquer sa vie, à vouloir mettre une couverture et un manteau, comme si lui était impeccable. Comme disait quelqu'un, l'enfer, c'est les autres. Non, non. David demande à Dieu le soin de le sonder. Au contraire, dans la crainte qu'il éprouve d'être sans savoir sur une mauvaise voie, il demande à Dieu avec insistance de le pénétrer de part en part de son regard pour le délivrer du mal qui pourrait se trouver en lui et le conduire sur la voie du bien, celle de l'éternité. Que ce sentiment puisse également nous habiter. En conclusion, Dieu possède l'omniscience, Dieu connaît tout de moi. L'omniprésence, Dieu est toujours près de moi. La souveraineté, Dieu a un plan pour moi. La justice, Dieu jugera ses ennemis, qui peuvent être mes ennemis. Mais comme il a été dit tout à l'heure par Marc, ce psaume pour nous ne s'arrête pas là. Parce que ce psaume a un premier mot, c'est éternel. Ce psaume a un dernier mot, c'est éternité. Le regard de Dieu sur nous va bien au-delà de notre simple vie terrestre d'ici-bas, bien au-delà. Il se projette dans notre avenir éternel. Pourquoi ? Parce que comme il nous a été rappelé par Marc tout à l'heure, c'est la fin. Voilà. Il nous a préparé une cité. Et bien mieux, pour chacun d'entre nous, il nous a préparé une place dans cette cité. Oui, le regard de Dieu sur nous va bien au-delà de notre simple vie terrestre d'ici-bas. Ça ne s'arrête pas là. Dieu a déjà en vue. Et il a préparé déjà en vue quelque chose pour nous, au-delà. Oui. Je terminerai par deux versets. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous aide à saisir quel grand Dieu nous avons.